Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu ce matin? On prend le passage d'Exode 34. Exode 34 à partir du premier verset. Rencontrez Dieu ce matin. Rencontrez Dieu demain. Rencontrez Dieu cette semaine. Rencontrez Dieu ces prochains mois. Rencontrez Dieu ces années à venir. L'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est une question de rencontre et de partage du cœur de Dieu. Dieu a un si grand cœur pour toi. Et regardez les merveilles qu'on va trouver dans sa parole de nouveau aujourd'hui. Exode 34, premier verset. L'Éternel, Yahvé, celui qui ne cesse d'être, celui qui n'a jamais cessé d'être. Et il dit à Moïse, un homme mortel comme vous et moi. Et c'est cette rencontre de ce Seigneur. Il dit, taille deux tables de pierre, comme les premières. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisé. On vient de vivre l'événement du veau d'or. Moïse qui disparaît environ 40 jours dans la montagne devant la face de Dieu, le peuple qui s'impatiente, il est où ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce désert. Il commence à tarder et puis ils se mettent à vouloir se prostituer spirituellement pour malheureusement construire un veau d'or pour avoir au moins quelque chose devant lequel ils pouvaient se prosterner une image. C'est dramatique. Il y avait encore l'esclavage dans le cœur d'Israël. Et le Seigneur, en les sortant d'Égypte, de ces 400 ans d'esclavage, veut les amener dans le désert pour entièrement dépendre enfin de l'Éternel, leur Dieu. Et alors que cet homme commence à tarder sur la montagne, il y a ce veau d'or qui est en train d'être fait. Il y a le jugement qui a eu comme conséquence de cette adoration. Et nous sommes au deuxième, ou plutôt à la deuxième partie justement, parce que Dieu ne se lasse pas avec son peuple. Dieu a de la patience. Et Yahvé ou Jéhovah reste Yahvé. Quand je dis Jéhovah, faut pas être choqué. Mais je trouve dommage, je fais une petite digression ici, parce que j'ai entendu de la part d'un juif que la vraie prononciation de Yahvé, parce que c'est compliqué de prononcer le tétragramme parce qu'on ne peut pas le prononcer, mais c'est Yéhovah. Je ne veux pas en choquer, hein. Je mets les choses au point. Et je ne voudrais pas qu'une entité nous pique cette signification pour qu'on n'ose plus prononcer le nom du Seigneur à la manière d'un juif, et c'est Yéhovah. Donc les choses sont dites, il ne faut pas vous choquer ce matin, mais ce n'est pas forcément Yahvé, c'est Jéhovah, avec les consonnes qui sont couplées avec les voyelles pour cette prononciation. Faisons attention, il y a la séduction qui vient sur le monde et dans le monde, et la séduction voudrait nous boucler la bouche, nous boucler le bec, d'accord? Mais nous devons vraiment nous attacher au Seigneur et les promesses que Dieu nous donne pour tenir bon et tenir ferme face à la séduction. Amen. Ne soyons pas influencés par les fausses doctrines. Amen. La parole de Dieu est vivante et Jéhovah est vraiment ce Dieu merveilleux. Celui qui n'a jamais cessé d'être, celui qui ne cessera jamais d'être. Et c'est ce Dieu que nous rencontrons ce matin. Parenthèse fermée, excusez-moi pour cette petite digression. Donc l'Éternel, deuxième édition de cette loi qui vient de nouveau être taillée sur ces premières pierres, sur ces deuxièmes pierres, il y a une deuxième édition parce que Dieu ne lâche pas l'affaire. Amen. Il ne lâche jamais. Lorsqu'il y a un projet dans ta vie, le Seigneur ne lâche jamais. Est-ce que toi, tu le lâches? Parce que Dieu vibre tellement pour ta vie, Dieu vibre tellement pour son peuple, qu'il ne va pas se laisser avoir par une incrédulité, il va beaucoup plus loin que l'incrédulité d'un peuple. Et voilà qu'il nomme Moïse et qu'il le rappelle sur la montagne. Il lui dit, sois prêt, deuxième verset de bonheur. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Encore une deuxième fois pour Moïse. Vous vous rendez compte, il a déjà jeûné 40 jours sans nourriture, sans boisson, et on remet le paquet une fois. Il faut quand même y aller. Il faut avoir les nerfs aussi. Moïse est cet homme de Dieu qui craint l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, c'est une rencontre personnelle, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraît sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Il y a une préparation, il y a la sainteté, il y a la rencontre avec Dieu. Nous rencontrons un Dieu 3x5. 4, verset 4. Moïse tailla ces deux tables de pierre comme les premières, comme la première édition. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, cette montagne de rencontre, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Revenons quelques versets plus avant dans le chapitre 33. Et au verset 12, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe dans le contexte. Lisez toujours la parole de Dieu dans son contexte, parce qu'un texte hors contexte ne reste que prétexte, d'accord ? Et la parole de Dieu demande à être interprétée dans son contexte. Verset 12 du chapitre 33 d'Exode. Voilà ce que Moïse dit au Seigneur, à l'Éternel. « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le Seigneur aime lorsqu'on veut le rencontrer. Le Seigneur aime quand on lui dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Comme ce matin, Éternel, sonde mon cœur. Le Seigneur ne reste pas insensible à ses prières. Et c'est grâce à la prière de Moïse pour son peuple que l'Éternel veut l'exaucer. Parce que Moïse veut rencontrer son Dieu. Il ne lâche pas l'affaire non plus. Il n'est pas découragé par l'incrédulité du peuple. Il n'est pas découragé par ce veau d'or. Il veut continuer de persévérer pour rencontrer l'Éternel. Est-ce que ce matin, tu as toujours cette persévérance malgré les circonstances qui sont dans ta vie ? Peut-être qu'il y en a qui malheureusement tombent à ta gauche, à ta droite. Psaume 91, il y a ces réalités. Est-ce que tu continues, toi, dans la persévérance de rechercher la face de Dieu ? Est-ce que tu continues d'être à la brèche ? Et l'Éternel recherche les hommes et les femmes de l'Éternel, de cette trempe, surtout dans ce monde où il y a malheureusement la séduction qui vient de plus en plus. Est-ce qu'on veut se laisser polluer par cette séduction ? Est-ce que c'est peut-être aussi de la persécution, notre confort, tout ce que nous avons ? L'ennemi est tellement, tellement malin pour essayer de nous éloigner justement loin de la face de Dieu. Il y a cet homme Moïse qui recherche la face de l'Éternel et qui demande vraiment cette grâce de pouvoir pleinement lui plaire. Il dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Éternel. » Et quand il lui dit « Considère que cette nation est ton peuple et l'assemblée d'aujourd'hui. Vous êtes parmi le peuple de Dieu. Amen. » Il y a des choses qui se passent dans nos cœurs. Cette rencontre avec l'Éternel, il y a des choses qui se passent. Et regarde au verset 14, l'Éternel répondit, l'Éternel craque à cette attitude. L'Éternel ne peut que répondre à cette sollicitation du cœur, parce que c'est une rencontre cœur à cœur, décidé pour rencontrer l'Éternel. Et nous sommes dans cette rencontre du Seigneur ce matin. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Vous rendez compte, quand l'Éternel se met à marcher avec nous, quelle que soit la situation, il nous donne du repos parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Tu vas avoir du repos ce matin, marche avec le Seigneur. Tourne-toi vers l'Éternel de tout ton cœur. Supplie qu'il soit avec toi, recherche sa face. Et alors il va te donner du repos. Quelle que soit la tâche, quelles que soient les circonstances, malgré cette séduction du veau d'or, tu recherches ma face, tu te places devant moi, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. La marche avec l'Éternel donne véritablement du repos. Pourquoi ? Parce que je me confie en l'Éternel, quelle que soit la situation, Quelle que soit la vision que le Seigneur me donne ou la mission que Dieu me donne, le Seigneur veut marcher avec moi. Vous vous rendez compte, nous on dit « Seigneur, je veux marcher avec toi », mais c'est Dieu qui s'abaisse pour marcher avec moi afin de me donner du repos. Dans la mission que Dieu donne à Moïse, Moïse doit rester dans le repos de l'Éternel, sinon ce n'est pas possible. C'est tellement fort, la révélation de la parole de Dieu. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il le comprend. Moïse veut prendre Dieu avec lui. Oui, tu peux prendre le Seigneur avec toi, pas forcément dans tes agendas cachés, on est d'accord. Pas seulement dans des petites vies où on fait des petites combines. Non, parce que Dieu ne marche pas avec nous. Parce que souvent, on prend le prétexte, Seigneur, tu es avec moi, je te prends avec, et puis on fait un petit peu n'importe quoi. Nous sommes devant le Dieu saint. Cette montagne est sainte, le Sinaï est saint. On s'approche du Seigneur dans la sainteté, on ne fait pas n'importe quoi avec le Seigneur. Et ça ne change pas. Et là, quand il lui demande de venir avec lui, c'est parce qu'il est conscient de la tâche. C'est parce qu'il se rend compte que ce repos avec l'Éternel, il en a besoin. Et c'est alors que l'Éternel va marcher avec Moïse qu'il y aura vraiment ce repos. Marcher avec l'Éternel t'accorde le repos. Oh Seigneur, j'ai tellement besoin de ton repos. J'ai tellement besoin de ta grâce. J'ai tellement besoin de comprendre comme Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec nous, pas forcément avec moi, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse, il garde cette grâce et ce privilège de la rencontre du Seigneur pour le partager à toute l'assemblée, avec nous, pas forcément avec moi. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a peut-être quelque chose d'égoïste. Seigneur, marche avec moi. Mais ce que tu dis, Seigneur, marche avec nous. Est-ce que tu fais partie du tout? Est-ce que tu fais partie de l'assemblée? Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu avec lequel le Seigneur veut marcher? Parce que dans l'assemblée, nous sommes les uns avec les autres. Nous nous aimons les uns les autres et nous marchons ensemble. Il y a cette dimension de corps là, tellement importante. Verset 16. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » Oui, parce qu'il y a une distinction marquée sur le peuple de Dieu. Amen. Sur l'Église, sur Israël, il y a une distinction marquée de la part de l'Éternel. Pas de la part de n'importe qui. Et cette distinction ne vient pas des hommes. Elle vient de l'Éternel, qui marque son peuple du sceau de l'Éternel. Amen. Et l'Église est marquée du sceau de l'Éternel. C'est scellé dans les cieux. Personne ne peut enlever le sceau de l'Éternel sur l'Église et sur son peuple. Amen. Personne ne peut enlever le sceau de l'Éternel sur Israël. Amen. Même si on tente et on voudrait éradiquer ce peuple de la surface de la terre, c'est une hérésie. Il y a le sceau de Dieu sur Israël. Il y a le sceau de Dieu sur l'Église. Et cela jusqu'à la fin. Amen. C'est tellement bon de le dire avec une fermeté, une autorité dans le Seigneur, dans la grâce de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne de proclamer ces choses. Cela ne vient pas d'un homme, ce n'est pas possible que ça vienne d'un homme. C'est l'Éternel qui accorde ces choses et qui donne cette grâce de cette proclamation de la parole de Dieu. L'Éternel reprit et dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Je leur dis, verset, c'est trop fort. Quand Dieu parle à un homme, alors que Dieu est tout suffisant, il n'est pas forcé, mais il a un tel amour pour son peuple. Et quand Dieu craque littéralement devant un homme, c'est extraordinaire. Il y a des choses qui se passent. Et je crois que le cœur de Dieu craque, parce que nous, on craque de toute manière. Donc si moi, je craque pour ma dulcinée, et je craque encore, lui qui a mis en moi ces sentiments où je craque, Dieu craque aussi. Dieu fond. Façon de parler devant, comment dire, cette attitude qui n'est pas naturelle à l'homme de le rechercher. À cause de sa rébellion, parce que nous sommes rebelles par nature. Et alors qu'un homme ou une femme recherche la face de Dieu dans l'humilité, ce qui n'est pas naturel, Dieu craque. Dieu répond. Dieu est d'accord. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut venir avec nous pour nous donner du repos dans sa grâce et cette marche avec l'Église. Que plusieurs ce matin, entre guillemets, je me permets un petit peu cela, mais que plusieurs nous fassions craquer le cœur de Dieu ce matin devant lui. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. L'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, suscite des voix prophétiques en ces temps de la fin éternelle. C'est ma prière. Ta parole nous éclaire, Seigneur. Merci pour ta parole vivante. Suscite des vocations, suscite des hommes et des femmes de Dieu qui tournent leur cœur vers toi, qui crient vers toi et qui disent, Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas pour ces temps de la fin, Seigneur, on n'ira pas, on ne va pas tenir le coup, Seigneur, tu le sais. Qualifie ton Église, Seigneur, qualifie ton peuple. C'est notre prière ce matin. Nous voulons prendre au sérieux la parole de Dieu, nous voulons prendre au sérieux l'appel qu'il y a sur l'Église. L'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité, alléluia. Nous le proclamons face aux puissances ce matin. Que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité face au mensonge qui vient sur le monde. Tu nous donnes une grande responsabilité en tant qu'Église, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Nous voulons ce repos qui vient de toi. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt chercher ton Église. Nous voulons être prêts ce matin, Seigneur, à te rencontrer. Rencontrer Dieu. Rencontrer là où tu es, Seigneur. Te rencontrer là où tu te trouves, dans la sainteté, dans la consécration. Il y en a un autre qui craque, c'est Moïse, au verset 18. Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est un petit peu l'homme. Hein? Parce qu'il y a comme un emballement, il y a le dialogue qui s'installe entre Moïse et Dieu. Il y a Dieu qui craque, puis il y a Moïse qui craque aussi, mais je ne sais pas s'il craque de la bonne manière. Là. Parce que vous vous souvenez, il y a déjà la curiosité du buisson ardent d'Exode 3 qui s'est passé quelques temps avant. Et puis, il est quand même titillé par ce Dieu absolument glorieux. Et là, je vous dis, attention. Hein, parce que quand on veut voir la gloire de quelque chose, attention. Dieu ne partage pas sa gloire. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ par grâce. Nous ferons partie de la gloire de Dieu. Il y a de temps en temps des élans de gloire aussi dans l'Église. Tout à fait. Attention, Dieu ne partage pas sa gloire. Parce que lorsque la gloire descend, les choses sont encore plus sérieuses. Et là, le Seigneur repère Moïse. Et l'Éternel lui répond. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. Ça me fait trembler. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu reste le maître incontestable. Il fait ce qu'il veut. Et ce matin, tu as la grâce d'avoir été sauvé, d'avoir été touché par la miséricorde de Dieu comme moi, et de pouvoir te tenir devant l'Éternel. Pour le louer et l'adorer, on ne joue pas à l'Église. Nous sommes l'Église touchée par l'Éternel. Dans sa grâce et dans sa bonté, dans sa miséricorde, on ne fait rien et on ne fait pas n'importe quoi devant l'Éternel. Il y a une odeur de sainteté devant la présence de l'Éternel. Et ce n'est pas qu'on veut être les gardiens du temple en tant que pasteur et en tant que responsable spirituel, mais nous devons préserver la maison de Dieu en nous préservant déjà nous-mêmes avec vous pour redire ces choses tellement importantes, tellement saintes. Est-ce que je suis encore bouleversé par la bonté de Dieu? Est-ce que je suis encore bouleversé par la miséricorde de l'Éternel? Est-ce que je suis encore bouleversé par la compassion de Dieu? Est-ce que je vibre encore devant la personne de Dieu? Pas suffisamment. En tout cas, pas pour moi. Pas à mon goût. Je désire, quand je reprends ces textes-là, comme je le fais avec vous ce matin, mais je me dis, mais Seigneur, j'en suis où dans ma vie? Quand l'Éternel dit à Moïse, je reprends le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, donc Jéhovah ou Yahvé. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous rendez compte, l'Éternel se présente comme ça à Moïse parce qu'il est comme ça. Et lui dit au verset 20, l'Éternel, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras, mais juste par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Mais pourquoi ? Parce que Dieu est tellement humble qu'on peut le voir que juste par derrière, un tout petit peu de sa gloire. C'est un Dieu qui se cache, c'est un Dieu humble qui ne peut pas rencontrer l'orgueil de l'homme, parce que l'orgueil de l'homme le foudroie devant l'humilité de l'Éternel. Et ça me replace devant ma responsabilité de m'humilier pour rencontrer ce Dieu, de rester humble devant lui. On reprend le verset 5 du chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel n'est pas un spectacle. La rencontre de l'Éternel, ce n'est pas un spectacle. C'est quelque chose de tellement intime. Et Dieu se révèle jusqu'à Moïse, dans cette humilité, dans cette grâce extraordinaire. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria à l'Éternel, Jéhovah, Jéhovah, Adonai, Adonai, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà la présentation de l'Éternel. Je crois qu'il y a un programme à étudier sérieusement là. Il se présente avec son premier qualificatif, miséricordieux. Souvenez-vous de Jean-Claude Chablot qui a une tellement bonne définition de la miséricorde de Dieu. C'est la corde que Dieu tend à ma misère. Voilà le Dieu de la rencontre. Il tend une corde à ma misère dans sa miséricorde pour me sauver. L'Éternel miséricordieux, premier qualificatif qu'il adresse à Moïse. L'Éternel miséricordieux et compatissant ou gracieux. Mais ce terme de miséricordieux là, c'est la première mention de l'Éternel qui se présente comme un Dieu miséricordieux à Moïse. Parce que Moïse a trouvé le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est trouvé, Dieu se révèle comme ce Dieu de la miséricorde, rempli de grâce. Ça, c'est Dieu. Et on a besoin de le rencontrer comme cela. Amen. Il se présente comme ça à Moïse. Il ne se présente pas en Dieu juge, en Dieu qui est là à reprocher le veau d'or encore. Non, sa personne est miséricordieuse et remplie de grâce. Il va encore beaucoup plus loin et nous rencontrons Dieu ce matin peut-être d'une manière encore plus profonde. Il continue, il est lent à la colère, mais comme moi je suis rapide à la colère, comme je m'énerve vite. Pauvre mortel, je me prends tellement la tête. Surtout derrière le volant, alors je voulais me mettre vraiment à l'épreuve pour voir ma sanctification, c'est la bagnole. Et pire en vélo, quand on me coupe la priorité, mais c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment est-ce que je tiens encore sur mon vélo. Je crois que je ne suis pas le seul ce matin. Le veau d'or vient d'arriver. Le veau d'or a bafoué la personne de Dieu. Le veau d'or a humilié la personne de Dieu. Il est encore lent à la colère. Jusqu'au jour du jugement, nous savons que le jour de l'Éternel va être un jour terrible. Et là, la colère de Dieu va se manifester. Mais encore aujourd'hui, Dieu est miséricordieux, il est compatissant, gracieux, lent à la colère pour ta vie. Il y a de la patience encore en Dieu pour toi. Il y a de l'espoir, peut-être que tu es complètement brisé par une vie, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais des fois il y a des galères, on se dit, mais ce n'est pas possible que Dieu me pardonne encore. Ben oui, Nul n'est exclu de la grâce de Dieu ce matin. Amen. Quand on dit qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Ben oui. Tu en vis ce matin. Amen. Remercie ton Dieu. Il est lent à la colère. Repens-toi peut-être. Il veut te pardonner. Il veut rechercher ton cœur. Il veut cette relation avec toi. Une relation pure, authentique. Une relation d'amour parce que Dieu est amour. Amen. J'espère que ça vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien ce matin. Il est riche en bonté et en fidélité. Et il conserve son amour parce que Dieu est amour jusqu'à 1000 générations. Ces générations où Dieu a prophétisé à Abraham en Genèse 12 en lui disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi à cause de ta foi. » Et toutes les familles de la terre bénéficieront de cette grâce dans la mesure où nous plaçons la foi et notre confiance en l'Éternel. J'ai regardé ce terme de bonté et il y a la correspondance grecque pour Bethesda. Ça m'a touché. Vous vous souvenez de Bethesda, de cette piscine à Jérusalem? Et on va prendre ce texte en Jean 5 maintenant. Je ne vais pas forcément prolonger, je pense que beaucoup de choses ont été partagées ce matin. Mais quand le Seigneur dit « riche en bonté », la correspondante nous ramène au Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance. Et il y a cette guérison de l'infirme de Bethesda, parce que la correspondance de bonté en grec, c'est Bethesda. Jean 5, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu, voilà, on le retrouve, Bethesda, et qui a 5 portiques. Je ne vais pas forcément venir sur toute la signification du texte, c'est tellement beau. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendent simplement le mouvement de l'eau. Est-ce que j'attends le mouvement de Dieu dans ma vie, de cette eau vive? Lisez la parole de Dieu prophétiquement. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer dans ses écrits. Tellement extraordinaire. Verset 4, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Et quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est peut-être toi. Il n'y a peut-être pas autant d'années ou il y a peut-être plus d'années. Prends cette parole pour toi. Jésus le vit couché. C'est pas normal qu'il soit couché. Souvent, j'ai entendu des gens qui se moquaient de la parole de Dieu. Ils disaient, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Mais parce qu'il y a un but. Jésus le voit couché, mais il n'aurait pas dû être couché. Bien sûr, couché parce qu'il est malade. Mais le programme est autre. Lis prophétiquement la parole de Dieu pour toi. Amen. Regarde ces détails de la parole de Dieu. Sois animé de l'esprit pour comprendre le texte et ces choses tellement extraordinaires. Jésus le vit couché. Le Seigneur te voit couché peut-être encore ce matin. Peut-être couché depuis tant d'années. Dans tes craintes, dans tes peurs, dans tes limitations, dans tes frustrations, dans ton péché. Le Seigneur te voit couché. Et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, on se dit, mais oui Seigneur Jésus, je sais, on le sait, tu connais toutes choses, mais ça ne touche pas dans ton cœur que le Seigneur savait qu'il était couché depuis tellement longtemps. Mais pourquoi tu n'as rien fait Seigneur? Alors après, il y a toutes les questions qu'on peut se poser, effectivement. Mais l'important, c'est que ces 38 ans arrivent à un terme. Peut-être que pour toi aujourd'hui, cette longueur, cette souffrance arrive à un terme. Amen. Prends-le pour toi ce matin. Prends la guérison pour toi. Prends la délivrance pour toi. Le Seigneur te parle. On n'est pas là pour... comprenez, on essaie vraiment de sortir aussi nos tripes pour vous les donner. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas tellement appétissant, excusez-moi. Mais on essaie de sortir ce qu'il y a de la parole de Dieu pour que vous puissiez vraiment agréer, vous assembler ces choses. La parole de Dieu est vivante. Dieu honore ce qu'il honore. Amen. Le manal lui répondit... Donc Jésus lui couché, ça était là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Tu dis, bon, quelle question. Mais c'est la même question pour toi. Peut-être même qu'après 38 ans, tu n'as pas vraiment envie de changer. Là, ça paraît tellement évident. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Jésus est un gentleman. Jésus ne force pas. Bon, il a un petit peu forcé Paul, c'est vrai. veux-tu retrouver la santé? Si il lui avait dit non, c'est que tu n'es vraiment pas bien. C'est grave. C'est une interpellation pour toi ce matin. Le malade lui répondit, pas l'homme ou la personne, mais le malade, la parole de Dieu est aussi. C'est dur d'admettre que nous sommes malades et qu'on a besoin du Seigneur. Ça touche mon ego aussi là. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Vous vous rendez compte? Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il lui dit sa souffrance, il lui dit son malheur. La maladie rend solitaire, oui, c'est vrai. Et Dieu veut te rencontrer aujourd'hui dans ta solitude, amen. Il voit ta solitude, il voit ton désespoir, il voit où tu en es. Et il veut te rencontrer ce matin. Amen. Et là, on pourrait se dire, il y a un favoritisme, parce que l'eau, ben voilà, puis hop, le premier qui peut un petit peu, il saute, ben hop, c'est bon pour lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette injustice, parce que je trouve vraiment très injuste ce qui se passe là, franchement, c'est le premier qui saute qui est guéri, les autres, pff. Et peut-être tu te sens aussi comme ça, toujours les autres, pas moi. Eh bien, ce matin, cette rencontre est pour toi. Amen. Elle est pour toi, cette rencontre, ce matin. Pour toi. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu au sérieux. Fais-la naître en toi, dans ce potentiel de grâce et de vie. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'est étonnant. Il prend son lit. Moi, j'aurais laissé ce pieu. Un pieu de 38 ans de douleur. Non, franchement, un grabat de 38 ans. J'aurais été content de... Il y a plein de choses. Il prend son lit. Aidez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il ne reprend pas sa vie, il ne reprend pas ses choses. C'est pour montrer que, ben voilà, il a encore la force de prendre son lit. Enfin, je ne sais pas, c'est pour montrer. Il y a une image extraordinaire encore là à découvrir. Il prit son lit et se mit à marcher parce qu'il avait la santé pour le prendre. Mais pas traîner avec lui ses 38 ans de souffrance. C'était pour passer à autre chose. Et quand on passe à autre chose, peut-être qu'il faut reprendre des choses anciennes pour s'en débarrasser. C'était le sabbat. Ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Ben voilà la réponse. La réponse qui te donne aux religieux de réagir, de discutailler de ta guérison, de discutailler de ta rencontre avec le Seigneur. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Et je vous laisserai continuer ce magnifique récit chez vous dans la semaine.